FM 93, les sports avec Ray Cloutier.
Ben oui, des soirs de semaine, le sport des fois finit tard et là vous avez hâte de savoir que s'est-il passé entre autres dans la série mondiale, mais juste avant que Ray prenne le crachoir et qu'il s'en aille avec ça, j'ai pour vous autres des statistiques, pour nous autres, la petite gang qui sommes encore dans le pool, trompe-toi pas, ça exclut mes collègues, bien sûr.
Beaucoup d'arrogance.
nous sommes à la semaine numéro 8 qui va commencer donc dès demain. Il y avait 836 participants sur les presque 5000 inscrits. On en a perdu des soldats. On en a perdu un peu moins d'une centaine. Ben, il en reste actuellement 783 participants dans le pôle Trompe-toi pas. C'est quand même beaucoup à la semaine numéro 8.
Les Sabres de Buffalo, s'ils font les séries l'an prochain, là, puis ça fait 10 ans qu'ils manquent, vont-ils être arrogants, eux autres?
Les Sabres de Buffalo, oui, ils vont l'être arrogants.
Ils vont être arrogants, oui.
Ce qui est un phénomène assez spécial.
J'aurais pu prendre le Canadien.
J'aurais pu. Mais ils font les séries, eux. Ils battent les Pingouins, même.
Un phénomène spécial dans le pool Trompe-toi pas la semaine passée. Près de 60% des participants ont pris les Bills de Buffalo.
Ah ouais,
fait que, contre les Jets. Mm-hmm. Fait que tu vois que ça se dessine. Il y a un pattern qui se dessine. Ça va prendre une grosse surprise pour en faire tomber plusieurs.
C'est la faiblesse de ce concours.
Je
confirme, c'est la faiblesse de ce concours.
C'est les équipes faibles. Ouais. Pourtant, la parité dans la NFL, tu sais, tu le dis d'année après année, des équipes qui connaissent des saisons parfaites, même si on exclut les séries, c'est très, très, très difficile à accomplir. Bon, alors, Ray, as-tu écouté un peu de baseball hier?
Tout.
As-tu vrai?
Oui.
C'était ah oui?
Oui.
Tu t'es pas choqué, toi, à un moment donné?
C'est-à-dire?
Quand le gérant a pris la décision d'enlever Blake Snell.
Choqué. Et les statistiques avancées, ça existe dans tous les sports maintenant. Puis au baseball, ça existe beaucoup, les statistiques avancées. Puis c'est là-dessus que les Rays de Tampa Bay se fient pour prendre leur décision. Ils ont été la meilleure équipe de la Ligue américaine cette saison en agissant comme ça. Hier, Blake Snell, le lanceur partant, avait un excellent match dans le bras. C'est un lanceur gaucher. Puis en sixième manche, Blake Snell, après un retrait, a donné un coup sûr. Seulement le deuxième coup sûr qu'il accordait dans le match. Il a donné un coup sûr au neuvième frappeur, Austin Barnes, qui était donc au premier but après ce coup sûr-là. Et ça menait au bâton Mookie Betts pour la troisième fois dans le match. Puis les statistiques avancées, une des statistiques avancées sur laquelle les Rays et le gérant Kevin Cash se fient beaucoup, c'est la troisième présence des frappeurs contre le même lanceur. Ils aiment pas ça. Ils aiment pas ça que le lanceur affronte les frappeurs pour une troisième fois. Selon eux, puis selon les statistiques, je pense que les statistiques leur donnent raison, les frappeurs ont beaucoup plus de succès à la troisième présence que lors des deux premières. Donc, bref, c'est là-dessus que s'est basé le gérant Kevin Cash, sans vraiment considérer le fait que Blake Snell avait un excellent match dans le bras et qui semblait en contrôle de la partie, il l'a retiré, alors que les Rays menaient 1-0.
Mais toi, t'en penses quoi personnellement? Là?
Ben, pour hier, je l'aurais pas retiré, Blake Snell. Mais comme je te dis, la loi de la moyenne, et c'est à l'avantage des Rays dans les décisions. Très, très souvent, c'est payant.
Oui, je comprends. Mais j'aurais donné au moins un autre frappeur. Tu avais donné deux coups sûrs.
Et eux autres, ils ont comme une façon de faire. Ils ont une stratégie. Puis oui. Elle a été payante pour eux. Là.
Oui, mais en saison régulière. Puis j'allais dire, c'est une genre de routine. Puis on a établi une façon de faire.
Ouais, 160 games à jouer. Hein.
C'est ça. Tu sais, fait que tu t'en vas avec ça. Ouais. Sauf que hier, puis moi en plus, là je l'écoutais en français hier. J'ai trouvé Mark Griffin très bon parce que lui a tenu son point. Puis il était pas gérant d'estrade, dans le sens où il l'a dit avant que les déboires arrivent, il était pas d'accord. Ce gars-là a gagné le Cy Young en 2018. Il avait l'air en parfait contrôle. Puis,
mais ça a été payant toute l'année pour les Rays.
Oui, mais en tout cas, là, hier, je l'aurais pas fait. Ça, non, c'est clair.
Hier, ça se retourne contre eux. Mais dans les séries, ça a été payant. La semaine dernière, ça a été payant pour les Rays de prendre cette décision-là. Les releveurs sont arrivés dans un match, je me souviens plus lequel, puis il a été critiqué, Kevin Cash, quand il a pris cette décision-là. C'est la semaine dernière que c'est arrivé. Et les Rays ont gagné ce match-là. Hier, c'est sûr que ça se retourne contre eux,
Mais c'est parce que dans les autres matchs, là, mon point, c'est que eux autres, des kingpins, ça bute, ils n'ont pas. Tu me l'as dit souvent, ils marchent en comité, ils utilisent tout le monde, puis tu nous l'as bien fait comprendre, puis même affaire au bat, hier c'était le plus gros, il fait un peu premier.
Choi.
Ouais, c'est ça. T'sais, hey, moi, quand j'ai vu au bat avant de commencer la game, j'ai dit, voyons, j'ai-tu manqué un frappeur? Puis là, je check ça. Mais non, c'était le premier pitch de la game, j'ai dit, c'est le gros gras, il frappe premier.
Ce qu'on saura jamais, c'est qu'est-ce qu'il aurait fait Mookie Betts contre Blake Snell. Il aurait peut-être frappé un coup sûr aussi. C'est Mookie Betts, là. C'est le meilleur joueur du baseball majeur, à mon avis, présentement. Donc, tu sais, oui, on peut jouer au gérant d'estrade comme ça après, puis critiquer la décision, puis c'est bien le fun. Mais moi, ce que j'essaie de vous dire, c'est que c'est une formule qui est beaucoup plus gagnante que l'inverse pour les Rays. Mais hier, dans le match numéro 6, ça se retourne un peu contre eux, parce que c'est là que ça s'est passé. Les Dodgers ont pris les devants 2-1 dans cette sixième manche-là. Et par après, Betts a frappé un circuit contre un autre lanceur.
C'est Betts qui a frappé. Parce que moi, 2-1, j'ai fermé ça, j'étais trop en maudit.
En huitième manche. Et ça s'est terminé 3-1 pour les Dodgers de Los Angeles. Et les Dodgers ont utilisé 7 lanceurs, eux autres, de leur côté. Ça n'a pas été long hier, là. Dave Roberts, Gonsolin, il a pas fait 2 manches. Roberts est sorti. Lui aussi, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux? Les statistiques avancées sont très importantes. Puis ça a commencé avec Billy Bean, qui a monté un club avec les A's d'Oakland. Il y a un film, d'ailleurs, Moneyball. Et c'est basé là-dessus. Puis de plus en plus, on s'en sert. Dans le hockey, je parlais avec Patrick il y a de ça quelques semaines. Puis les statistiques avancées, ils s'en servent pas autant que ça. Mais ils s'en servent, des statistiques avancées dans le hockey maintenant. Mais c'est le baseball qui a...
Donne-moi un exemple de statistiques avancées. Je ne veux pas te prendre de même, là, mais tu sais, le baseball, là, je comprends que, écoute, il t'a tout qu'un changement de mentalité dans le baseball, parce que des statistiques, il y en a. Au hockey, tu sais, puis mais je veux qu'il reste de la place avec le feeling. Moi, je vais te donner un autre exemple, mettons. Si Kevin Cash, hier, est arrivé, face, tu sais, des joueurs comme Snell, là, c'est rare. Snell, il n'a pas beaucoup dans une équipe. J'y aurais parlé avant d'y enlever la balle.
Oui, mais je pense que ça fait presque 30 départs que Blake Snell, il passe pas la sixième manche de suite.
OK.
Donc, ça a beau être un Cy Young en 2018, mais Snell, il est en sacrement hier. Là, on l'a bien vu.
Oui. Tu sais, quand Patrick Roy rentrait...
On peut pas être surpris, là.
Quand Patrick Roy rentrait dans le vestiaire d'un série, puis il disait à sa gang de jambon, parce qu'il n'a pas tout le temps eu des grosses équipes en avant de lui, puis il a dit, moi, là, il n'en rentre plus une joie le vert. Fait qu'il nous en manque un ou deux. Faites ce que vous avez à faire. Moi, la porte est fermée. Fait que c'était clair, le message. Puis des joueurs comme ça, c'est des joueurs d'exception. Puis j'avais l'impression hier que Snell, puis lui, il savait que c'était sa fin des séries, parce qu'il n'allait pas jouer là, aujourd'hui, s'il rejouait. Fait que je sais pas, j'aurais pas pris cette décision-là pour cette raison-là.
Il peut être déçu, mais c'est sûr qu'il n'est pas surpris de ce qu'il a. Il s'en attendait. Il a regardé vers l'abri quand il a donné le coup sûr à Barnes. Puis il sait que c'est Betts qui s'en vient. C'est son troisième tour au bâton. Il connaît la philosophie de l'organisation. Mais c'est sûr. Mais statistiques avancées au hockey, pour compléter la question que tu m'as posée. Ouais. Entre autres, les mises en jeu en zone offensive. Il y a des joueurs de centre qui sont meilleurs à gauche, des joueurs de centre qui sont meilleurs à droite.
Okay.
C'est comme plus spécifique, spécialisé par rapport à un joueur contre un autre joueur aussi, contre un autre joueur de centre. Ça, c'est un exemple. Mais c'est difficile, les statistiques avancées, parce que le hockey, c'est beaucoup plus un sport d'émotion que le baseball. Les défensives spéciales au baseball. Moi, j'en reviens pas encore hier, là. Tu sais, t'as besoin d'un coup sûr, soit pour prolonger une manche ou mettre un coureur sur les buts. La défensive se déplace. Mettons, c'est un frappeur gaucher. Il y a trois joueurs qui sont dans la défensive du côté droit de l'avant-champ. Le troisième but est quasiment rendu sur le sac au deuxième but. Pourquoi tu pousses pas ça au champ gauche? Moi, j'en reviens pas.
Ah, ben, Choi, justement, une game difficile, lui. Lui, le côté gauche est complètement libre, là. Il est pas capable.
Je sais pas s'ils sont. Ils seraient capables.
Moi, je sais.
Mais c'est une mentalité. C'est un peu comme ça. Ils sont pris dans des mentalités. Ça, c'est moins bon pour le sport. Honnêtement, j'aime moins ça. Mais ça fonctionne. C'est leur façon de faire. C'est leur façon de se monter des équipes. Puis, les statistiques avancées font que des masses salariales comme les Rays de Tampa Bay peuvent plus rivaliser avec la masse salariale des Dodgers puis les meilleures équipes. Ils sont capables de. Ils ont été les meilleurs dans les Ligue américaine.
Hier, il y a eu au total 4 points dans le match.
Ouais.
Il y a eu 2-3 circuits.
Il y a eu circuit à Rose Arena puis Betts.
Donc, il y a eu 2 circuits sur les 4 points. OK. Fait que c'est ça, c'est la mentalité. Mais Mark Griffin disait qu'il a l'impression qu'à un moment donné, le baseball...
Ça va retourner.
Ça va revenir sur mettre la balle en jeu, puis sur des jeux de base.
Ben, c'est tellement évident.
Ouais.
Les gars, là, tu sais, à un moment donné, mettons, un frappeur gaucher, il va dire, ben là, je suis 1 en 21, là, à essayer de tirer la balle dans le champ, ça marche pas. Il va pousser à droite, il va pousser à gauche. C'est sûr, il va connaître un match de 2-3 coups sûrs de cette façon-là. Là, la défensive va être obligée de s'ajuster en disant, ben là, on peut pas se laisser faire. Ouais. Il va finir la saison avec 90 coups sûrs en sans présence, s'il fait tout le temps ça. Là.
C'est ça. Okay. Mais le commentateur hier disait, lui, il swing pour un circuit de 3 points, puis il n'y a personne de ses buts. Hey, ça swing. Fait que,
c'est ça. Okay. Mentalité, c'est vraiment du baseball différent de ce qu'on a connu. Hey, là.
Nous autres, quand ça marchait pas, qu'est-ce qu'on se faisait dire?
Un bunt.
Ou coupe ton bâton.
Ah, coupe ton bâton.
Mais tant que la balle est en jeu.
Ouais. Mais où coupe ton bâton?
Ils sont capables de bonneter.
Ah, c'est drôle, pourquoi ils m'ont jamais dit ça de bonneter?
Non, mais c'est ça, c'est pour ça que j'allais dire. Choi, il est peut-être pas dans la catégorie de ceux qui auraient pu bonneter, mais tu sais, tu déposes une balle un petit peu avec de la force.
Choi, je trouve que j'étais charrié de le mettre premier hier, honnêtement. Là. Oh, ouais. C'est ça aussi. Tu sais, à un moment donné, t'es chanceux où ça va bien ton. Mais quand t'es. Il y a un moment donné, t'arrives au bout, tu dis, je vais me brûler, là, peut-être à faire ça, je pourrais peut-être essayer autre chose.
Mais avec les joueurs qu'il y a.
Ouais.
Et ils n'ont pas de star, à part à Rose Arena, qui est une histoire incroyable.
Il est devenu une star vite. Là,
mais... Hier, il a frappé son 10e coup de circuit. Il a attrapé la COVID cet été, lui, à Rose Arena. Au mois de juillet, il n'a pas joué. Il avait la COVID.
Okay.
Il a commencé à jouer au mois d'août.
Mais il était dans... Il a pas commencé l'année avec eux autres?
C'est lui qui a passé un mois à faire des push-ups dans son appartement.
Okay. 300 push-ups par jour. Il n'y avait rien à faire.
Et... Je vais me mettre à faire ça. La Je COVID. Pense que j'ai du temps jour.
Okay. Il a gagné 90 335 piastres à Rose Arena cette année.
Hé, bâtisse.
Total.
C'est vrai? Pauvre Ed?
Oui.
OK.
C'est ça.
Ça devrait bien aller pour les prochains jours.
Corey Seager est le joueur le plus utile de la Série mondiale pour les Dodgers et qui remporte un 7e titre dans leur histoire. C'est une équipe qui a déménagé de Brooklyn à Los Angeles à la fin des années 50 et qui est établie à Los Angeles depuis ce temps, mais ils n'avaient pas gagné depuis 1988. Les Dodgers, la meilleure équipe a gagné la Série mondiale, comme la meilleure équipe, je pense, a gagné le championnat de la NBA. Et la meilleure équipe a gagné le championnat de la Ligue nationale de hockey, à mon avis. Donc, c'est pas toujours comme ça, mais cette année, je trouve que dans les sports d'équipe, ce sont les meilleurs qui ont remporté le championnat. Puis, Batins, le baseball majeur s'est rendu à la fin. Donc, leur pari, au début, on avait beaucoup de doutes quand il y a eu quelques éclosions dans des équipes comme les Marlins, les Cards de Saint-Louis. Ça a mal parti, là, la relance du baseball avec une courte saison de 60 matchs. On a fait quelques ajustements, puis on s'est habitué à la COVID-19. Puis hier, on a réussi à disputer le dernier match de la Série mondiale. Mais le commissaire Rob Manfred hier a annoncé qu'il y avait que la situation économique du baseball majeur n'est pas très rose. Il a parlé de 8,3 milliards de dettes pour l'ensemble du baseball, des équipes évidemment pour qui ça va moins bien et d'autres un peu mieux. Mais l'ensemble, l'économie du baseball majeur n'est pas très florissante. Et de ce que je lisais, de ce que j'entendais des experts hier, ce sont les joueurs qui devront faire des concessions dans le futur. C'est normal. S'ils ne rentrent plus d'argent ou si la compagnie est à perte tout le temps, à un moment donné, ils ne peuvent plus opérer. Puis en bout de ligne, il faut diminuer les salaires. Il y en a des gros salaires dans le baseball. Là.
Toi, mettons, tu as bien dit, parlons d'une compagnie. Tu as une entreprise.
Ouais.
Les revenus, mettons, là, on comprend dans le temps de pandémie, c'était difficile, mais normalement, les revenus télé et spectateurs sont là.
Ouais.
Produits dérivés, les revenus sont là. On peut les augmenter encore un peu, mais ça va très, très bien. Il y a une affaire qui n'est pas contrôlée, puis c'est les salaires.
Les Red Sox de Boston n'ont pas gardé Mookie Betts, là. C'était en gros une question salariale.
C'est une question d'argent.
Les Red Sox de Boston.
Mais il a gagné quand même, mettons, la saison passée.
30 quelques. Il a signé le pactole. Là, avec
30 millions pour une saison.
Donc, il va faire ça pendant 10 ans.
Ah non, oui, c'est là
Mike Trout a signé 425 millions de dollars.
Pour 10 ans?
Oui.
Ah, c'est ça. Des joueurs à 40 millions dans la Ligue nationale de hockey, ça n'existe pas?
Non.
Dans la NFL?
Dans la NBA, ça existe. Je pense que LeBron ne touche pas loin de ça.
Okay.
Dans la NFL, non.
OK, mais même encore, tu dis LeBron, c'est le meilleur, puis au basket...
Ah, mais 30, 40 millions, ça n'a plus de sens.
Ah non, c'est ça, ça n'a pas de
bon. Un joueur, Patrick Mahomes, quand même signé 503 millions. On dit dans la NFL, Patrick Mahomes, c'est le plus gros contrat des sports d'équipe présentement. 503 millions.
Dis-moi pas, ça ne regarde pas de même. J'ai pas signé ça.
Ça, c'est plus que la valeur de plusieurs franchises, entre autres de la Ligue nationale de hockey, d'après moi.
Ouais, à lui tout seul. Là.
C'est un joueur, lui.
Ah ouais, c'est ça.
Fait que c'est ça.
Sa blonde fait dire qu'elle l'aime beaucoup. Hein.
Honnêtement, ce qu'on constate, c'est que la pandémie va avoir des effets, là, probablement négatifs là-dessus, puis ça va revenir à une situation un petit peu plus... réel, là, je vais dire, parce que c'était gonflé là, depuis quelques années. Les joueurs qui jouent présentement depuis 5-10 ans, c'est probablement ceux qui vont avoir été le plus payés pour pratiquer leur sport. Là, je pense qu'on s'en va vers une pente un peu plus descendante, tout étant relatif par rapport aux revenus. Là. Puis le hockey, il échappera pas. Là.
Ben, le hockey, il est déjà passé par là. On est surpris tous les deux chaque jour des signatures des joueurs autonomes qui sont sous les montants qu'on s'attendait.
Oui. Et oublie pas que les montants qu'on annonce, c'est très souvent, c'est pas ce montant-là que le joueur va empocher à la fin parce qu'il y a un escrow, là, il y a un pourcentage qui est retenu parce que si on rencontre pas les revenus, ben c'est un pourcentage des revenus totaux qui sont redonnés en salaire. Donc, Carey Price, prenons l'exemple de Carey Price à 10 millions, il a pas touché 10 millions une fois dans son contrat encore. Là. Mm-hmm. Il va toucher moins encore cette année. Et là, la suite pour la Ligue nationale de hockey, est bien hâte de voir, mais dans les quatre sports majeurs, c'est assurément la Ligue qui est le plus fragile par rapport aux revenus. Donc, la pandémie va avoir des effets, mais ce que nous a annoncé M. Manfred hier, on peut pas être surpris de ça, mais c'est simplement que les joueurs, faut qu'ils reçoivent le message. Et la pire relation employeur-travailleur dans les sports d'équipe, les sports majeurs professionnels, c'est le baseball.
Ah oui?
Hey, il se crie des noms, Stéphane. il se parle pas.
Ah, je savais pas ça.
Il s'envoie promener comme faux.
Ah ouais, OK.
C'est pas impossible qu'on s'en va vers un autre conflit de travail. Si je me trompe pas, ce serait le 10e conflit de travail dans les 50 dernières années dans le baseball.
Le dernier datant, ben, il y a eu l'année des les Expos qui étaient la meilleure équipe en 94. Il y en a eu d'autres après?
Oui, il y en a eu d'autres après.
OK.
Il y en a eu quelques autres après.
OK.
Il n'y a pas tout le temps des grèves puis des longs lockouts, des affaires comme ça, mais ils sont jamais d'accord. Mais de façon spectaculaire.
OK, j'avais jamais remarqué ça. Ouais. Je sais que vous deux vous suivez ça plus, là, mais moi, j'avais jamais vu ça sous cet angle-là.
Quand ça a commencé, hein, Ray, dans les années 70, entre autres, là, les conventions collectives puis tout ça, là, c'était sans arrêt arrêté par des grèves puis des arrêts de travail.
Si je me trompe pas, il y a un négociateur du syndicat qui est au temple de la renommée du baseball, Marvin Miller.
Ouais.
Lui,
directeur de l'association des joueurs.
Il est au temple
joueurs,
de la renommée.
Ça, hein? Ah ben... C'est comme Louis Laberge, la FTQ, il devrait le rentrer. Qui se fait faire une statue, là, le gars du syndicat à Montréal? Là, tu dis ça? Le gars du syndicat de la ville de Montréal, de la CSN, il s'était fait faire sa statue en avant à l'avant des bureaux de la CSN. Il s'est fait un vrai bronze, pas les statues comme à Québec. Là. il s'est fait faire un vrai bronze.
Roger Langevin?
Non. Il me semble que c'est un Lapierre.
Ah, à Montréal?
Oui, à Montréal. C'est un syndicat, un baveux, là, un méchant baveux. Il était le chef du syndicat, mais des employés de la ville, ou je sais pas
trop. Une statue. On se prend pas pour une poignée de chance.
Ah oui, fouille ça, Pierre. Là, il y a une statue devant le bureau de la CSN à Montréal. Je l'ai vu, d'ailleurs. Quand tu sors du pont Jacques-Cartier, c'est pas loin. OK, ensuite.
Un peu de hockey, quelques signatures de contrat. Hendrix Lapierre signe son contrat d'entrée dans la Ligue nationale avec l'organisation des Capitals de Washington. C'est 92 500 $ sont bonnis à la signature, Stéphane. En fait, qui est réparti versus le plafond salarial sur 3 années. Donc, son bonus, c'est 3 fois ça. 3 fois 92, ça donne grosso modo près de 300 000 $ de bonus pour Hendrix Lapierre.
3 fois, il va avoir un chèque de 92 000.
Non, c'est peut-être un one-shot deal, mais par rapport au plafond,
okay, tendu.
Il était allé...
Fait qu'il aurait touché
parce qu'il y a un plafond pour les bonnies puis un plafond pour les salaires.
OK. Ouais. Fait que là, il aurait touché 300 000 piastres à chaque nouveau
joueur.
C'est
ce que je comprends, ouais. OK. Ouais. 22e choix du dernier repêchage. Hendrix Lapierre est âgé de 18 ans et évolue avec les Saguenayens de Chicoutimi dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. C'est une belle journée pour Hendrix Lapierre et certainement que dans les dernières années, il y a des moments où il a douté qu'il allait vivre cette journée-là, c'est-à-dire de signer son premier contrat professionnel, pas parce qu'il n'a pas le potentiel. Ça a été le premier choix du repêchage de la LHJMQ il y a de ça 3 ans maintenant. Donc, ça fait plusieurs années que les gens qui suivent le hockey mineur, les dépisteurs, voient en Hendrix Lapierre un beau potentiel pour atteindre le rêve, c'est-à-dire atteindre la Ligue nationale de hockey. Mais les blessures, les commotions cérébrales ont jeté le doute dans l'entourage d'Hendrix Lapierre. Puis finalement, hier, il pose sa griffe au bas d'un contrat d'entrée. Donc,
il va-tu jouer, tu penses?
Si sa santé tient, oui.
Okay.
Oui, si sa santé tient.
Parce que est-ce que ça peut faire grimper Martin Pouliot dans l'organisation des Capitals?
Il est déjà bien placé, là.
Oui.
Ça fait 20 ans qu'il travaille là.
Ça fait 20 ans. Il est quand même un recruteur, tu sais, je veux dire.
Ils n'ont pas repêché beaucoup de Québécois, là.
Non. Lui, je me souviens pas. Des fois, il dit qu'il y a un gros coup, lui, qu'il a fait faire aux Capitals. Non, il me semble que non. En tout cas, je ne me souviens pas.
Okay. C'est un Jean Lapierre, mais pas celui qu'on connaît. Ouais, c'est un autre, mais ouais.
C'est un autre Jean Lapierre, hein. Il a son bronze devant l'édifice de la CSN. Ouais.
Le frère de Cale Fleury, Aiden Fleury, a signé un contrat avec les Hurricanes de la Caroline. 2 ans, 2,6 millions de dollars. L'Avalanche chantant avec le défenseur de Vaughn Taves. Un contrat de 4 ans, 16,4 millions de dollars pour ce défenseur de 26 ans acquis des Islanders de New York en retour de 2 choix de deuxième ronde. Et un arbitre tranché dans le cas de Tyler Bertuzzi, l'attaquant des Red Wings de Détroit. On s'interrogeait à savoir comment ça fonctionnait, si l'arbitre pouvait trancher la poire en deux.
Ouais.
L'arbitre peut, comme Pierre l'avait mentionné, Pierre avait raison, l'arbitre peut aller entre les deux. Parce que Bertuzzi demandait 4,25 millions de dollars. Les Red Wings ont dit « Ouais, c'est beau, t'es bon, là. » Mais on voudrait te donner 3,15 millions de dollars. Alors, l'arbitre a entendu les arguments des deux côtés et l'arbitre a tranché à 3,5 millions de dollars pour Tyler Bertuzzi. 21 buts, 48 points en 71 matchs. C'est quand même bien payé. C'est un joueur d'impact pour les Red Wings présentement. C'est un contrat d'un an qu'il signe. Après être passé devant l'arbitre, il est âgé de 25 ans. Dans le hockey junior maintenant, la Ligue junior majeure du Québec annonce hier que ça va reprendre au Québec parce que c'était sur pause depuis quelques semaines. Il y aura des matchs à Baie-Comeau et en Abitibi assurément en fin de semaine parce que ces gens-là sont en zone jaune ou orange, mais à tout le moins, ils sont pas en zone rouge. Pour ce qui est des Remparts, c'est pas impossible qu'ils jouent en fin de semaine, même s'ils sont en zone rouge. C'est demain que la santé publique va rendre sa décision finale pour les deux matchs des Remparts qui doivent jouer vendredi à Québec contre Shawinigan et samedi à Chicoutimi. Il est assuré qu'il n'y aura pas de match en fin de semaine à Drummondville, Sherbrooke, Gatineau et Blainville-Boisbriand. Drummondville, Sherbrooke et Blainville-Boisbriand ont encore des cas, sont encore dans la quarantaine et à récupérer de quelques cas positifs. Du côté des Voltigeurs, on annonçait hier qu'on est rendu à 9 cas positifs dans l'organisation, soit 8 joueurs et un membre du personnel. L'Armada, c'est pratiquement toute l'équipe qui a été touchée il y a de 2 semaines déjà.
Presque tous les joueurs?
Ouais. Oui.
Ah ouais.
Puis Sherbrooke, ils ont quelques cas également. Eux avaient joué contre l'Armada. Ils étaient à une dizaine aussi, sauf erreur, le Phoenix. Donc ces trois équipes-là doivent gérer cette situation-là avant de recommencer à jouer. Mais les Remparts, même s'ils sont en zone rouge, il n'y a pas de cas. Même chose pour Shawinigan, où il n'y a pas de cas, même s'ils sont en zone rouge. La Mauricie, sauf erreur.
La Mauricie est en zone rouge depuis en fin de semaine.
Et le Saguenay?
Le Saguenay, pas encore.
Pas encore
le Saguenay depuis en fin de semaine.
Mais là non plus, il n'y a pas de cas.
Mais est-ce que les Remparts, là, finalement, ils ont fait, même si leur doléance n'a pas marché, ils ont-ils fait une bulle pareille?
Non.
Les gars sont encore dans les pensions, mais ils vont. Ils limitent leur déplacement. Donc, ils sont dans leur pension, puis au centre Vidéotron.
C'est ça, ils s'entraînent.
Ils s'entraînent.
D'ailleurs, les deux Finlandais commencent l'entraînement aujourd'hui. Leur quarantaine est terminée. Ils doivent sauter sur la patinoire aujourd'hui.
Tu vas aller voir ça?
Je peux pas. Les médias ne peuvent pas assister aux entraînements présentement.
OK. Ah ouais.
Je serais allé faire un tour.
Pas si je suis quelqu'un d'autre, là, mais il y a de la place pour te mettre quelque part. Là.
Et on peut pas.
Ah, ouais,
c'est même pas sûr que je décrive les matchs en fin de semaine si jamais ils jouent.
Ah ouais?
Ça reste à déterminer. Je vais vous tenir au courant, là, mais c'est demain qu'on va avoir les détails.
C'est le docteur Amaroula qui va t'appeler?
Oui. Ben, il m'appellera pas moi, là, mais c'est pas mal lui qui va décider ce qui va se passer.
On est encore orange au Saguenay, finalement.
Orange,
Saguenay-Lac-Saint-Jean, ouais.
C'est bon. Et hier, dévoilement de la liste préliminaire en vue du repêchage 2021 de la Ligue nationale de hockey. Ça vaut ce que ça vaut, mais ça donne une idée sur ce vers quoi on s'en va. Il y a 3 Québécois qui sont classés cote A. Ça, c'est un potentiel choix de première ronde dans la Ligue nationale de hockey. Zachary Lheureux, qui est un jeune homme de Montréal, qui évolue avec les Moussettes d'Halifax, il avait été repêché par Moncton. Excellent marqueur, fougueux, intense. Je l'aime bien, Zachary Lheureux. Zachary Bolduc, lui, c'est le successeur, en quelque sorte, d'Alexis Lafrenière. Vous voyez que l'Océanique a encore un joueur d'impact dans leur organisation. Zachary Bolduc, qui joue avec l'Océanique, lui est natif de Trois-Rivières, avait tenté sa chance, ou en tout le moins, était allé aux États-Unis quelques semaines l'an dernier. Puis finalement, il a dit non, c'est beau, je reviens dans la Ligue junior majeure du Québec. Très, très bon joueur de hockey, Zachary Bolduc. Et Xavier Bourgault, ça c'est mon coup de cœur dans les 3 choix de première ronde potentiels.
Je t'ai mis Facebook avec sa mère.
C'est un jeune homme natif de Lillet, Xavier.
Ah oui, OK.
Il est bon en tabarouette. Un droitier, bon marqueur de but, joue avec les Cataractes de Shawinigan. Donc ce sont ces trois-là.
Tu connais-tu sa famille,
Québécois,
toi?
Non.
À Lillet, à Lillet?
Chez où il reste, moi.
OK. Mais moi, c'est parce
chez où
tu restes. Sa mère, un matin, j'ai ouvert mon Facebook, puis sa mère Lambert, c'est mon ami Facebook. Puis là, a publié là, le classement.
Il a raison d'être fier. Puis je pense qu'il est bien entouré, Xavier, mais c'est un sacré bon joueur de hockey.
Oui. Elle écrit sur son Facebook, sa mère, que les conseils de Steph Dupont l'ont beaucoup aidé à progresser, Xavier. Puis ça l'a emmené où il est rendu.
Bien sûr. Les Remparts ont 4 joueurs répertoriés dans la liste préliminaire en vue du repêchage, soit James Malatesta et Evan Naus. Eux ont la cote B, c'est-à-dire potentiel choix de deuxième et troisième ronde. Le Finlandais Mariala et le gardien de but William Rousseau également se retrouvent sur cette liste. Mais ça, là, faut en prendre et en laisser beaucoup. Mais ça donne quand même une idée de ce que les dépisteurs voient dans le potentiel des joueurs éligibles au repêchage de la Ligue nationale de hockey en 2021. Et la Ligue de l'Ontario, hier, annonçait que probablement, en fait, c'est aujourd'hui qu'il devrait confirmer que ça va commencer au mois de février seulement, la Ligue junior majeure de l'Ontario.
Ça marchera pas. Bon,
ça marchera pas.
Non, ben tu vas voir que je trouve que les ligues comme ça qui vont partir à des degrés différents, ils vont avoir de la difficulté à tenir un mettons que ça rentre dans l'ordre, là, ils vont avoir de la difficulté à tenir un championnat de fin de saison, tout le monde mélangé, parce qu'il y en a qui vont avoir commencé au mois d'août, peut-être qui vont être avantagés ou désavantagés. Je suis même pas capable de te dire lequel, mais la différence est trop importante. Donc, sur le fait que certaines ligues vont avoir commencé, les Remparts ont déjà des games
de
jouer.
En même temps, Steph, il y a souvent une période de transaction, la période des fêtes, puis les équipes après les fêtes sont bien différentes des équipes avant les fêtes. Donc, c'est après les fêtes que ça se passe beaucoup dans le hockey junior, pour les meilleures équipes particulièrement. Donc là, ils vont presque tous être sur un même pied.
Ben, ils
mais
pas
c'est vrai,
pareil,
que, c'est
de
vrai
de
qu'au Québec, ils vont avoir joué plus de parties.
C'est ça. En Ontario, s'ils commencent en février puis ils décident de jouer 60 games pareil.
Non, ils ne joueront pas 60.
Ben, ils vont arriver brûlés, mais mettons qu'ils en joueraient trop.
Les séries vont être plus courtes aussi.
OK, tout, c'est ça. Donc, ça va être difficile de. Il va peut-être falloir, s'il y a une Coupe Memorial, mettre un petit astérix à côté, vu que les ligues n'auront pas commencé en même temps.
L'Ouest, c'est janvier, je pense, que l'Ouest va commencer ses affaires. J'ai 2-3 choses en terminant. D'abord, au tennis, c'est ce midi, finalement, que va jouer Félix Auger-Aliassime contre Vasek Pospíšil au tournoi de Vienne en Autriche. Le Masters, c'est dans 2 semaines. Et là, le Masters va devoir rivaliser avec la NFL le dimanche 15 novembre. Conclusion du Masters, ils sont pas habitués à ça. Normalement, c'est au mois d'avril, et puis ils sont rois et maîtres à la télévision de CBS. Mais à cause de ça, le Masters va prendre fin dimanche le 15 à 14h30, 14h45 maximum, parce que CBS a un match de la NFL à présenter ensuite à 16h. Ils se sont donnés comme un lousse, une marge de manœuvre si jamais devait y avoir une prolongation. Mais les départs vont donc être avancés pour la journée du dimanche au Masters.
Et
pour
la télé n'en mène pas large. Hein?
Non, c'est ça, exactement. Et j'ai 2 choses. D'abord, ma manchette, c'est est-ce que Trevor Lawrence va imiter Peyton Manning? Trevor Lawrence, c'est le carrière de l'Université Clemson. C'est sa 3e année à l'Université Clemson. Il pourrait jouer une 4e année à Clemson parce qu'il est junior et il y a une possibilité de jouer senior l'an prochain, mais il a aussi la possibilité de se déclarer éligible pour le repêchage de la Ligue nationale de football s'il le veut à la fin de la saison. Hier, Trevor Lawrence, puis il y a de ça quelques mois, on pensait que c'était certain que Trevor Lawrence allait se déclarer éligible pour le repêchage de la NFL. Mais là, l'équipe qui détiendrait le premier choix, ce sont les Jets de New York. Et il semble que ce soit vraiment ça la raison qui fait hésiter Trevor Lawrence pour se déclarer éligible au repêchage de la NFL. Les Jets, ça va nulle part. Là. C'est tout croche, puis il n'y a rien d'encourageant là. Donc lui, il regarde ça, puis il dit, je sais plus si je vais me déclarer éligible. Je vais regarder ça. On va peut-être retourner à Clemson. Puis Peyton Manning avait fait exactement la même chose.
Puis sa décision, Manning, il avait attendu finalement?
Oui, parce que c'était les Jets qui avaient le premier choix.
C'était encore les Jets?
En 1997. Ben pareil.
Ça fait bien longtemps qu'ils sont mauvais.
Même affaire. Puis Manning, lui, était retourné à l'Université de Tennessee. Puis ensuite, il avait été le premier choix en 98 par les Colts d'Indianapolis. Donc, on verra si Trevor Lawrence, avec ses cheveux longs, décide d'y aller.
Il est bon, maudit, en tout cas.
Il est très, très bon. Et la ville de Kansas City est très intéressée à accueillir les Raptors pour la prochaine saison de la NBA, parce que la NBA, c'est à peu près sûr qu'ils vont commencer le 22 décembre leur prochaine saison. Et les Raptors sont au Canada et toutes les autres équipes sont aux États-Unis pour la frontière qui est encore fermée. Alors, c'est complexe pour les Raptors qui se cherchent un domicile aux États-Unis. Puis hier, le maire de Kansas City a dit, venez-vous-en, on est prêt à vous accueillir. Et Patrick Mahomes a même embarqué dans ça en disant, venez-vous-en, vous allez voir, on est bien à Kansas City, on va vous accueillir, on va vous aider. Qui met de la pression.
C'est bon, ça, c'est un bel endroit. C'est correct. De toute façon, c'est juste une ville temporaire.
C'est plate pour Toronto.
Fait que Toronto.
Toronto.
Toronto, ils regardent là, écoute-moi TV, qu'est-ce que tu veux. Je n'ai pas de sympathie pour les Torontois.
Sur cette conclusion.
Il est 7h, vous êtes dans Dupont le matin. On a fait vraiment un beau tour dans le monde du sport.
Toronto.
C'était plus que l'essentiel. On vous a tout donné ce qu'il y avait à savoir. Donc, OK, allez-y. Venez prendre votre douche, là, ou bien débarque de ton char si t'es devant le chantier ou la roulotte de chantier. Puis vas-y, ça commence. La journée commence.